Bonsoir. Situation sécuritaire en RDC. Le Conseil supérieur des défenses a tenu la semaine dernière à plaider plutôt pour la levée du moratoire sur la peine de mort concernant des militaires qui se rendraient coupables de trahison dans la guerre entre les forces gouvernementales et le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Lors du Conseil des ministres de vendredi 9 février, le ministre de la Justice, Rose Mutombo, a présenté la note d'information relative à la levée du moratoire sur la peine de mort en RDC. La demande de rétablir la peine de mort en RDC suscite une vive controverse avec des voix qui s'élèvent pour condamner cette initiative. Plusieurs ONG, dont l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, Azadon Sigle, ont fermement dénoncé cette demande, la qualifiant de violation flagrante de la Constitution. Que pensez-vous de l'initiative du Conseil supérieur des défenses? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 15 février 2024. Participe au débat de ce soir. Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel, il est député national, il était vice-président de la Commission des Défense et Sécurité à l'Assemblée nationale pendant la législature 2018-2023. Professeur Jacques Joly, bonsoir.
Bonsoir, madame Edine Kouté.
Maître Jean-Claude Katende, avocat et président de l'Association africaine des défenses des droits de l'homme, Azadon Sigle. Il est également vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH. Maître Jean-Claude Katende, bonsoir.
Bonsoir, madame Katende.
Et aussi avec nous dans cette émission, professeur Gabin Badi Kabuya. Il est criminologue et directeur de l'école de criminologie de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Professeur Badi Kabuya, bonsoir.
Bonsoir, madame.
À Goma, au Nord Kivu, vous nous suivez sous la 95.5 si vous êtes à l'étranger. Merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net, sur Canal Plus, Channel 572, sur DSTV, Canal 867. Vous avez aussi la possibilité de suivre cette émission live sur la page Facebook et la chaîne YouTube des Radio Okapi, mais aussi le compte Twitter de Radio Okapi. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à dec@radiookapi.net.
Tout est mis en œuvre, non seulement pour que la ville de Goma ne tombe pas entre les mains des rebelles, mais également pour que toutes les localités occupées par les forces rwandaises soient récupérées. Ainsi l'a fait savoir le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, lors du compte-rendu de la rencontre de lundi 5 février à la cité de l'Union africaine sous le commandement du chef de l'État. Par la même occasion, le Conseil supérieur de la Défense a demandé au chef suprême des armées d'élever le moratoire sur la peine capitale concernant les questions des trahisons au sein des forces de défense et de sécurité. Jean-Pierre Bemba, dans cet extrait que nous propose Jacques-Yves Molima.
Tout est mis en œuvre pour que la ville de Goma ne puisse pas tomber. Deuxièmement, en ce qui concerne les différentes localités qui sont occupées par les forces rwandaises, l'ensemble des forces armées sont en train de mettre tout en œuvre également pour pouvoir récupérer toutes ces localités occupées par les forces rwandaises. Et ça, le commandant suprême est très ferme là-dessus. Il a demandé que l'ensemble des dispositifs puissent être pris à ce sujet. Le Conseil supérieur de la Défense a demandé à mon chef de l'État de pouvoir lever le moratoire sur la peine capitale en ce qui concerne les questions de traîtrise au sein des forces de défense et de sécurité.
Professeur Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel, député national, vous avez été pendant la législature 2018-2023 vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Vous avez suivi, comme tous les Congolais, le Conseil supérieur de la défense qui demande la levée ou qui a plaidé pour la levée du moratoire sur la peine des morts concernant des militaires qui se rendraient coupables des trahisons dans la guerre entre les forces, les FRDC, je veux dire, et les M23 soutenus par le Rwanda. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci beaucoup, madame, pour la question. Je crois qu'il faudra rentrer dans l'esprit de notre code pénal militaire et dans les cours de justice militaire pour essayer de fixer les cadres de ces débats. Et avant toute chose, il faut savoir que la justice militaire, c'est un instrument, c'est un outil d'appui au commandement. Alors, lorsque on parle de la restauration de la peine de mort, je suppose qu'il y a un problème de commandement et que pour renforcer la discipline, il faille recourir à cette peine de mort. Et lorsqu'on consulte les codes pénals militaires, les débats sur entre les abolitionnistes et les rétablitionnistes n'a pas été résolu. La peine de mort reste bien une peine parmi les peines qui sont prévues par notre code de justice militaire, code pénal militaire, et l'option du législateur de 2002-2003, c'était une approche abolitionniste prudentielle, c'est-à-dire, compte tenu de nos engagements au plan international et compte tenu de l'esprit de notre Constitution, il était important que, même en intégrant les crimes graves de la Cour pénale internationale, la peine la plus haute, c'est la servitude pénale à perpétuité. Bon, notre code pénal militaire prévoit la peine de mort. Et il a été dit que la peine de mort est disparue. C'est pas parce que tous les États ont le droit d'avoir des peines spécifiques. Vous dites que les États-Unis continuent à être un État où on applique la peine de mort parfois de manière brutale. Donc moi, je crois que il faut pas qu'on déplace le débat sur une question de peine de mort qui doit faire l'objet d'un débat sociétal qui a déjà d'ailleurs pour les débats à l'Assemblée, le collègue Mbatavia avait une proposition de loi portant abolition de la peine de mort, cette proposition de loi a été rejetée. La question c'est, est-ce que la peine de mort va restaurer la discipline dans les commandements des peuples? Et il ne faut pas simplement s'occuper de la trahison. Dans le code pénal militaire, il y a énormément de comportements infractionnels qui provoquent la peine de mort. L'espionnage auprès de l'ennemi, le détournement des munitions de guerre, la fuite devant les ennemis. Donc, si la trahison, eh bien, je comprends qu'on puisse s'attendre, mais revenons aux fondamentaux, c'est-à-dire la maîtrise du commandement et la convocation de la justice militaire pour renforcer ses commandements avec toutes ses peines, mais pour toutes les infractions. Un commandant qui détourne les livres ou les munitions, ou l'utilisation des militaires à des fins non opérationnelles pour aller surveiller sans autorisation les mines, et tous ces actes-là sont des actes graves. Donc il faut restaurer la discipline militaire, il faut restaurer la peine, ce qui détourne de l'argent des militaires, des soldes, ou qui donne des effectifs fictifs, mérite aussi toute cette peine. Donc, si on doit restaurer une peine, et j'ai pas lu la note explicative de la ministre, il faut restaurer la peine dans la totalité et la cohérence du système pénal, notamment militaire. Il ne faut pas non plus prendre des mesures de consommation sans explication pour parler de la peine de mort. Voilà ce que je peux dire.
Alors, c'est, vu le contexte actuel, hein, le contexte des guerres entre les FARDC, ou des affrontements entre les FARDC et les M23 soutenus par le Rwanda, il y a trop des rumeurs sur des officiers militaires qui seraient, qui trahiraient ou qui seraient de connivence avec l'ennemi, raison pour laquelle cette demande a été faite. Est-ce que, vous-même, vous avez posé la question, professeur Jacques Joly, est-ce que ça réglerait le problème au sein de l'armée? Est-ce que ça mettrait fin à cette situation de crise ou de guerre entre guillemets entre les FARDC et la rébellion du M23?
Le code pénal militaire n'a jamais extraité de son arsenal la peine de mort. Il y a un moratoire et dans l'exposé des motifs de ce texte qui est très bien écrit, il est dit qu'on peut recourir à la peine de mort lorsqu'on se retrouve dans des cas de crimes graves de sang ou des situations exceptionnelles dans lesquelles, par exemple, nous nous retrouvons. Donc, la peine de mort n'est pas exclue, la peine de mort fait partie de notre arsenal pénal. Mais le problème fondamental pour que Goma ne tombe pas ou qu'on récupère, c'est le problème du commandement, le problème de maîtrise des effectifs, le problème d'intégration de tous ces renégats et autres qui sont venus grâce aux accords, par exemple, du 23 mars 2019. Il faut restaurer la sanction dans toute sa plénitude en prenant en compte toutes les infractions graves qui ruinent la capacité de notre armée, notamment de ces commandants qui trompent les effectifs, de ceux qui détournent les rations ou les ressources militaires, de ceux qui fouillent devant l'ennemi, de ceux qui espionnent. Donc plein de comportements de cohérence, mais dire qu'on va restaurer l'armement pour la trahison, qui trahit, comment on trahit, et pourquoi les services de renseignement militaire ne sont pas capables de détecter les traîtres, voilà des questions qui se posent. Mais venir comme ça, balancer, demander au commandant suprême de prendre la responsabilité de restaurer la peine de mort, mais qu'ils viennent avec ces projets-là, au niveau du Parlement, qu'on fasse un débat sociétal sur le fond et sur toute la problématique de notre système de défense défaillant, ou qui a des difficultés. Et je voudrais saluer ici là, le courage des hommes qui se battent à sa pied, pour les autres, Wazalendo, qui sont en train de protéger la chute des vides de la Sakai et qui est surtout Goma.
Alors, professeur, plusieurs ONG de défense de droits de l'homme ont fermement dénoncé cette initiative, la qualifiant de violation flagrante de la Constitution.
On peut discuter sur la juridicité de la restauration de la mise de la fin du moratoire. La peine de mort, effectivement, pose un problème avec un certain nombre de traités, accords que nous avons conclus, notamment notre adhésion au pacte international des droits civils et politiques, aussi, par exemple, avec les dispositions de notre constitution, mais là aussi c'est pas clair, qui proclame le droit à la vie. Dans tous les cas, les débats sur la peine de mort, nous l'avons toujours dit, ça doit se faire. Je vous dis qu'il y a eu une proposition de loi du collègue Mbata sur l'abolition de la peine de mort qui n'a pas été acceptée au Parlement compte tenu justement de la multiplicité de ces groupes armés qui, n'est-ce pas, suivent de manière sauvage. Moi, je ne vois pas comment est-ce que on va continuer à rester, à mettre dans les prisons dont il n'existe pas des personnes qui commettent, comme ces Codeco et autres groupes armés, qui commettent des crimes graves, les gens de la dette. La peine de mort, aujourd'hui, ça fait débat, mais on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas parce qu'elle fait partie de notre arsenal juridique et la Constitution n'a jamais interdit qu'on puisse appliquer la peine de mort.
Maître Jean-Claude Katindé, avocat et président de l'Association africaine des défenses de droits de l'homme, Azadon en sigle. Vous êtes également vice-président de la Fédération internationale de droits de l'homme, FIDH. Vous êtes parmi les personnes qui dénoncent cette initiative du Conseil supérieur de la défense, la qualifiant de violation flagrante de la Constitution. Vous allez même plus loin en disant que cette demande révèle l'intention de régler des comptes à certains compatriotes dans les chefs des demandeurs.
Effectivement, Madame Kelly, en suivant les professeurs que je dis tout à l'heure, je partage effectivement certaines de ces considérations en ce qui concerne notre armée. Cette initiative montre effectivement qu'au sein de notre armée, il y a des problèmes de discipline. Et comme il l'a dit, je suis aussi de cet avis que le seul problème qui mine notre armée aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les problèmes de trahison. Il y a autant de problèmes qui se posent au sein de notre armée et qui demandent une réflexion, non pas émotive, mais une réflexion cartésienne qui permet d'appréhender toute la question et de trouver des solutions adéquates. Cela revient à poser la question de savoir est-ce que la levée du moratoire sur la peine de mort constitue aujourd'hui une solution rationnelle pour redresser les problèmes, pour adresser les problèmes qui se posent au sein de l'armée de la République démocratique du Congo. Ma réponse est non.
Mais ça pourrait dissuader les traîtres au sein de nos forces de défense et de sécurité.
Non, mais en ce qui concerne la traîtrise, il ne faut pas oublier que il y a quelque temps, le président Mbosso, l'ancien président de l'Assemblée nationale, s'adressant aux députés, il leur a demandé de quitter les groupes armés. Ce problème des traîtrises ne concerne pas seulement les militaires. Ça concerne aussi les politiciens congolais qui sont des connivences avec les groupes armés ou qui travaillent pour fragiliser notre armée. Donc le problème est plus profond que ce qu'on essaie de nous présenter. On a dit que notre droit, que ce soit les droits pénal militaire comme les droits pénal du côté civil, ce droit est en contradiction totale avec la Constitution de la République démocratique du Congo. Quand vous lisez l'article 61 de la Constitution, il est clair qu'on ne peut plus appliquer la peine de mort en République démocratique du Congo. Cet article dit clairement qu'en aucun cas, je répète bien, cet article commence par « en aucun cas ». Et même dans le cas de l'état d'urgence ou l'état de siège, il y a des principes et des droits auxquels on ne peut plus déroger. Et parmi ces droits, le tout premier qu'on a mentionné, c'est le droit à la vie. Et la Constitution est claire, elle dit bien « en aucun cas ». Donc il n'y a pas d'exception. Aujourd'hui, on ne peut pas justifier, si on est cohérent avec nous-mêmes, justifier l'application de la peine de mort parce que cette peine existe dans le droit pénal congolais, qu'il soit militaire ou civil. Non, la Constitution est claire et si nous étions conséquents avec nous-mêmes, on prendrait une loi pour respecter la Constitution qui abrogerait toutes les dispositions pénales qui maintiennent encore la peine de mort en République démocratique du Congo. Autre chose qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, devant la défaite qui devient permanente dans ce qui concerne la guerre à l'est du Congo, on pense qu'en restaurant la peine de mort, on va résoudre tous les problèmes. Je ne pense pas. C'est pour ça que j'estime personnellement que cette initiative me paraît personnellement comme étant une initiative de règlement des comptes de la classe politique vis-à-vis de certains militaires. Je pense qu'on peut restaurer la discipline au sein de l'armée par d'autres moyens qu'uniquement par, n'est-ce pas, la peine de mort.
Quel autre moyen, par exemple?
Non, il faut de la discipline. Aujourd'hui, vous savez que vous avez, à l'est du Congo, beaucoup de militaires qui sont impliqués dans l'exploitation illégale des ressources naturelles. Quand vous avez des généraux qui vendent du coltan, qui envoient les militaires de grade inférieur aller faire les trafics des minerais pour eux, vous pensez que ces gens qui voient, ces militaires qui voient leur chef faire ce genre de commerce, quand il y a la guerre, ils peuvent se battre contre ceux, en faveur de ceux qui font en fait les affaires, au lieu de s'occuper de la guerre. Je ne pense pas. Aujourd'hui, que ce soit à Kinshasa, comme dans les provinces, il y a beaucoup de policiers et de militaires qui sont dans les commerces. Nous les savons et les hommes politiques les savent. Pourquoi ils ne prennent pas des sanctions vis-à-vis de ces policiers ou de ces militaires qui sont dans les commerces, alors que c'est interdit. Et donc, je voudrais encore insister sur le fait que ce n'est pas une solution. On ne peut pas lever la peine de mort, le moratoire sur la peine de mort, uniquement pour l'armée. C'est aussi stigmatiser l'armée, parce que cette peine peut aussi être levée vis-à-vis de ceux qui détournent l'argent de l'État, de ceux qui font
qui commettent d'autres infractions punissables par la peine de mort. Enfin, je voudrais souligner le fait que dans l'état actuel de notre justice, parce que pour restaurer la peine de mort, il faut qu'on soit sûr que nous avons une justice indépendante, une justice qui n'est pas corrompue, une justice qui n'est pas dans les trafics d'influence. Fort malheureusement, et le premier citoyen l'a dit à plusieurs reprises, notre justice est corrompue. Imaginez qu'on arrête des militaires, des généraux, qu'on les accuse de traîtrise et qu'on les amène devant une justice qui est corrompue, qui n'est pas indépendante, qui est dans les trafics d'influence, on risque de condamner des innocents et se rendre compte après que ces personnes n'ont pas été condamnées pour des faits vraiment avérés.
Alors, il y a des
c'est
auditeurs...
pour ça que nous conseillons à la prudence.
Il y a des auditeurs qui nous écrivent le cas d'Alphonse Tchefou depuis la ville de Kinshasa. Je pense que cette mesure est salutaire vu le degré de trahison dans l'armée et les services de sécurité congolais au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Ce moratoire doit être levé car la sûreté de l'État est en danger. On est infiltré jusqu'aux dents dans toutes les institutions. D'ailleurs, la constitution dont fait référence ces ONG est une constitution taillée sur mesure des impérialistes. Voilà, c'est sa réaction. Et Théogène Ngoudié, depuis Goma au nord Kivu, voilà, lui pense qu'il faut des mesures contraignantes. Cette peine de mort doit être restaurée. L'on va de la survie de notre système de défense, Maître Katende.
Je comprends bien l'émotion de nous tous. Il n'y a personne qui puisse accepter aujourd'hui de voir les populations, les vidéos que nous voyons, des petits-enfants qui quittent leur foyer avec les parents en train de se promener en brousse. Ça fait mal. Mais je pense que nous avons, c'est nous-mêmes qui avons décidé de cette constitution, si nous voulons atteindre les objectifs que les Congolais considèrent aujourd'hui que si nous restaurons la peine de mort, on aura la solution à tout, mais commençons par changer cette disposition qui est dans notre constitution. C'est là qu'on doit commencer. Si on commence par là, je pense que les restes des questions vont être résolus. Évitons, c'est que je dirais, la précipitation. Évitons de mal faire les choses. Faisons les choses correctement. C'est-à-dire qu'on pose ce problème de changer des dispositions parce que tout le monde dit que, voilà, c'est une constitution qui a été façonnée par les belligérants, patati patata, mais c'est notre constitution. Pourquoi nous voulons la violer en restaurant la peine de mort qu'elle est aujourd'hui censée avoir abolie? Et donc, je considère personnellement que si c'est là la direction que la nation voudrait prendre, commençons par changer la constitution. Mais c'est cette révision de la constitution qu'elle ne soit pas une porte ouverte à d'autres changements qui pourraient remettre en cause les bases même du vivre ensemble congolais.
Merci, maître.
Donc, c'est ma façon de voir les choses.
Merci. Professeur Gabin Badi Kabuya, criminologue et directeur de l'école de criminologie de Lubumbashi dans le Haut-Kiatanga. Professeur, votre lecture sur cette controverse sur la levée du moratoire sur la peine de mort concernant des militaires qui se rendraient coupables de trahison dans la guerre entre les forces gouvernementales et les M23.
Je vous remercie vivement de l'occasion que vous m'offrez pour que je puisse intervenir sur cette chaîne de Radio Capi, sur cette question aussi importante qui concerne également mon champ d'activité en tant que criminologue. J'aimerais avant tout rectifier, je ne suis plus directeur de l'école de criminologie, mais je suis criminologue et bon, donc c'est des questions qui m'intéressent.
Merci.
Je vais aborder dans le même sens que le professeur Njoli, qui a évoqué un aspect qui est très très important, qui concerne la loi elle-même en tant qu'un instrument. C'est vrai qu'il faut se poser des bonnes questions, je crois que mes deux prédécesseurs ont évoqué aussi cet aspect du problème. Il faut se poser des bonnes questions face à des situations aussi complexes comme celle-ci.
Les dispositions légales, en fait, elles sont des outils, des instruments de politique publique. Et je crois que le professeur Angeli est revenu sur cet aspect de choses par rapport à la discipline militaire. Pour ma part, je pense que l'actuelle question qui se pose à l'heure actuelle, c'est celle de savoir si, en levant ce moratoire, on va résoudre le problème. Alors, je ne pense pas que ce soit des questions auxquelles on va répondre en étant ici assis ou en spéculant simplement. Comment devrons-nous savoir qu'on va régler le problème ou on ne va pas le régler? C'est justement en mettant en œuvre ces dispositions qui existent, malgré les contradictions qui peuvent apparaître par rapport à la Constitution. Je pense, je vais peut-être un peu déranger, les lois ne sont pas faites pour être respectées. C'est pas ça la finalité d'une disposition légale. Les lois ne sont pas faites pour être respectées, je répète.
Les lois
sont faites pour résoudre le problème, parce que ce sont des instruments de politique publique. Ça veut dire que face à un problème, on devra voir si cet instrument est en mesure de résoudre ce problème. Et là, il ne faut pas avoir peur. C'est vrai qu'il faut prendre des précautions pour encadrer et éviter des dérapages, mais il est important que si c'est cette voie-là qui semble être la bonne, c'est celle-là qu'il faudra faire, mais on va évaluer par la suite. On va évaluer par la suite pour se rendre compte qu'il y a eu des erreurs ou il n'y a pas eu des erreurs. C'est vrai qu'on va dire que c'est la vie humaine qui est en jeu et tout. J'adhère également à la position de Maître
Katende, je crois. Jean-Claude Katende.
Maître Katende, qui estime également qu'il faut impérativement qu'on voie, pour question de cohérence, qu'on essaye de voir si au niveau de la Constitution, il faudrait changer certaines dispositions. Quelle est cette constitution qui est restée statique pendant des années et des années? Ça n'existe pas, ça change. C'est des instruments qui existent, qui sont là pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et lorsque les situations particulières d'un pays, les situations spécifiques de certains endroits nécessitent à ce que les dispositions soient modifiées, mais je ne vois pas de mal en cela. Donc, cette question de la dissuasion également, le caractère dissuasif, de la peine de mort, je dois également mettre en avant le fait que la plupart d'études qui ont été menées sur les caractères dissuasifs de la peine de mort, c'est ailleurs en RDC, il n'y a pas assez d'études. Nous sommes bantous et on sait très bien comment le bantou s'accroche à la vie. Ça veut dire que ça peut produire des effets. Alors, on ne va pas réfléchir sur ça maintenant, c'est vrai qu'il faudrait encadrer cette situation, encadrer juridiquement et prendre toutes les précautions pour éviter les dérives avec une justice qui est probablement faible, donc il faudrait prendre des mesures pour cela. Moi, pour ce qui me concerne, et sur le plan purement criminologique, je ne vois pas de mal à ce qu'une telle mesure soit prise.
Alors, il y a une certaine opinion, professeur Kabuya, qui estime que le moratoire a favorisé beaucoup de dérives au sein de nos services de sécurité et de défense.
C'est possible. Je suis tout à fait d'accord avec cet avis-là, effectivement, pour ce qui est de la discipline militaire. Je pense que ça favorisait beaucoup de dérives et il est tout à fait normal qu'on puisse revenir un tout petit peu sur cette peine-là. Et ça, quant à sa situation ou son caractère dissuasif, je pense que c'est des questions plus importantes qui nécessitent un approfondissement encore un peu plus poussé.
Alors, vous allez rester en ligne, professeur Kabuya. On va prendre ces auditeurs qui appellent sur notre standard, qui veulent aussi donner leur point de vue sur ces sujets. On va se rendre à Lubero, au nord Kivu, pour écouter cet auditeur qui appelle.
Maître Abel Kiveho, depuis Kirumba, dans le Lubero, c'est au nord Kivu. Je suis de l'avis de ceux-là qui pensent que cette démarche viole la Constitution et surtout à son article 16. Et j'ajoute que la RDC n'a pas imité les pays occidentaux pour deux raisons. La première, c'est que nos autorités ne doivent pas oublier qu'en Occident, on privilégie la liberté par rapport à la vie, alors que notre philosophie pénale africaine met plus d'accent sur la vie que la liberté. Dédé, nous connaissons de la façon dont nos jugements sont prononcés. Je crois que cette démarche nous ôte plus d'innocents que de coupables. Cependant, le gouvernement ne peut pas nous faire croire que la trahison dans les services militaires était fait non punie à droit congolais. Combien de traîtres ont été condamnés et qui méritent aujourd'hui la peine de mort? Le pays n'a pas un problème de texte, ni taux d'application rigoureuse de ces derniers pour une bonne justice.
Professeur Kabuya.
Je pense qu'il y a une part de vérité ou certains éléments qui peuvent être, qui sont défendables dans les propos que je viens de suivre là. Mais je pense également qu'il faudrait qu'on essaie un peu d'arrêter avec cette idée selon laquelle la RDC a des textes, le problème se pose au niveau de leur application. Je pense que ce débat-là n'est pas un bon débat. Parce que à un autre niveau, il faudra se poser la question de savoir quels sont ces textes-là. C'est de quel droit dont il est question. Est-ce que c'est un droit qui correspond aux situations spécifiques telles que nous les avons à l'heure actuelle? La situation qui se vit, qu'on connaît à l'est de la RDC, c'est une situation tout à fait particulière avec autant d'atrocités. Ça suppose que dans la régulation, il faudrait qu'on tienne compte de ces éléments-là pour avoir des textes qui puissent répondre efficacement à une situation comme celle-là et en tenant compte du contexte dans lequel on se trouve. Donc, continuer à réfléchir en empruntant des idées, des arguments d'ailleurs, je pense que c'est très dangereux. Et continuer à dire que les textes sont là, il suffit de les appliquer, il faut également se poser la question de savoir que ces textes-là ne sont pas appliqués pour quelles raisons. Peut-être que par rapport au contexte, ça ne marche pas. Évidemment, pour ce qui est de l'armée, regardez madame, à ce moment-ci, nous avons des jeunes gens qui sont là en train de sacrifier leur vie au front et qui vont être peut-être fauchés par une balle simplement parce qu'il y a d'autres personnes pour des intérêts, des enjeux inavoués, auraient vendu la mèche à l'ennemi. Tenons compte de ces éléments-là. C'est vrai que c'est beaucoup d'émotions, effectivement, mais nous ne devons pas refuser, au-delà de ces émotions, de réfléchir et de réfléchir comme il se doit, et surtout, en tenant compte du contexte qui est le nôtre. Le contexte actuel en RDC n'est pas le même que celui de nos ancêtres. Ça aussi, il ne faut pas se tromper. Nos ancêtres ont vécu à un certain moment, ce n'est pas la même réalité qu'ici. Et le contexte que nous avons en RDC n'est pas le même qu'aux États-Unis, n'est pas le même qu'en France. Donc on ne doit pas recourir à des arguments prêts à penser, à des idées prêtes à penser. Les réalités sont différentes. Regardons notre réalité. Je suis tout à fait d'accord avec l'idée selon laquelle il faut s'asseoir. Il faut réfléchir très très bien, il faut encadrer cela pour éviter des dérives et on peut y arriver.
Professeur Jacques Joly, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Bondoudou.
C'est votre auditeur Tati Mazimba depuis la ville de Bondoudou. Bon, concernant la trahison, c'est bien beau, nous voulons qu'il y ait une mesure exceptionnelle pour les militaires qui trahissent le pays. Ils sont ici avec nous, mais en même temps, en coulisses, ils sont en train de collaborer avec nos ennemis pour détruire notre nation. C'est bien. Maintenant, dans une autre facette, qui est-ce qu'on appelle traître? Quand on partage mal les revenus nationaux, nous trouvons qu'il y a ceux-là qui trouvent à un bas montant sur 21 000 dollars, et les autres sont là dans les 15 000 dans les 150 000, ce n'est pas aussi une trahison? Quand lors des élections, il y a un groupe de gens avec le dispositif de vote, ils trichent et ils sortent vainqueurs, n'est-ce pas aussi une trahison? Quand on donne à quelqu'un, ministre, l'argent, allez, faites ceci, construit pour la nation, il prend cet argent-là, il le met dans sa poche, ce n'est pas aussi une trahison? Et qu'est-ce qu'on propose pour ces gens-là qui trahissent le pays par des corruptions, qui trahissent le pays par un mauvais partage, qui trahissent le pays par le détournement?
Je vais ajouter cette autre réaction de Madame Marguerite qui nous écrit depuis Kiasumbalesa, qui veut savoir, professeur Jacques Joly, quelles sont les sanctions réservées aux traîtres au sein des services de sécurité?
Merci beaucoup. Je crois que la première question de notre père de Bandoudou, vous verrez peut-être la réponse au point du professeur Kabuya en ce qui concerne la politique criminelle de l'État, qui est une question fondamentale face à une société gangrénée avec tout ce qu'il a cité comme mot. Quelle est la réponse pénale qu'il faut donner à tous ces comportements criminels, s'il faut l'appeler ainsi, et qui, n'est-ce pas, créent l'effondrement, l'effondrement de notre pays et sa fragilisation par la corruption des autres. Donc il faut une réponse pénale adéquate pour ça. Mais ici, nous sommes dans un débat qui est circonscrit, c'est la question du moratoire. Voilà, j'ai suivi le président de la Chado, il parle de l'aide référenda. Donc il dit il faut changer les lois. Mais avant qu'on change les lois, il faut les appliquer. Le droit pénal militaire, c'est un droit pénal de la dissuasion, comme a dit le professeur, c'est le droit pénal de la peur. Les militaires, au front, est dans un champ de mort, et s'il n'y a pas un droit qui puisse encadrer ces opérations avec le cours militaire opérationnel de la justice militaire qui accompagne, eh bien, il y a des difficultés à contenir ces hommes. Donc, la question de la trahison, oui, il faut une réponse pénale, et la réponse pénale, c'est ce que prévoit le code pénal. Je ne suis pas sûr que l'article 61, qu'on évoque très souvent sur le droit à la vie, ou l'article 16 sur le caractère sacré de la vie, interdise la peine de mort. Sinon, on aurait déjà changé de loi. Donc la peine de mort entre bien dans notre arsenal pénal pour des cas précis, et il est dit que même si nous avons fait cette approche prudentielle de moratoire, ça n'a jamais été question d'abolitionniste pour qu'on puisse carrément faire sortir. D'ailleurs, comme je l'ai dit, les codes pénales militaires disent lorsqu'il y a des circonstances exceptionnelles, notamment des menaces contre la vie de la nation, on peut continuer à exciter cette peine et l'appliquer. Donc, il n'y a pas de fondement juridique qui puisse faire obstacle à l'application de la peine de mort. Mais il est important, comme tout le monde l'a dit, que cette justice-là soit cadrée. Il y a dans l'histoire de notre pays des gens qui ont été exécutés pour des complots fictifs et autres, donc il faut se donner les moyens juridiques, les outils de procédure, de garantie pour qu'on ne puisse pas tuer un innocent à la place d'un coupable. Mais il faut aussi, comme je l'ai dit, étendre cette trahison, comme vient de dire notre frère de Bambou, à tous les actes de criminalité militaire, hein, notamment ces officiers qui maquillent les effectifs. Vous imaginez, on vous donne l'argent pendant 10 ans d'un régiment, mais vous n'avez même pas 300 hommes. Comme vous devez passer par les arbres, comme dit le code de justice militaire. Si vous détournez les munitions, si vous détournez les primes des opérations des militaires, vous devez passer par les arbres. Mais il faut prendre des dispositions pour que dans la gestion de ces groupes armés, je ne peux pas comprendre que des criminels comme ceux de Codeco ou des ADEF puissent bénéficier de la clémence au nom de la possibilité de l'abolitionniste. Non. Et j'en ai tué plus de femmes enceintes et gorges. Qu'est-ce qu'ils méritent? Ils ont la peine capitale. Donc, nous n'allons pas faire du droit de l'homiste plus que les Européens eux-mêmes. Le droit de l'homme, ça existe aux États-Unis, mais ils appliquent la peine capitale. Ils n'ont jamais supprimé. Donc, nous, le contexte qui est le nôtre, exige aujourd'hui des réponses pénales efficaces, mais aussi des opérations, des actions de prise en charge des militaires, pour qu'ils ne soient pas mis en condition de trahison ou autre. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire. Donc il faut une réponse cohérente, globale, pour ne pas apparaître comme une mesure cosmétique ou une mesure émotive. Il faut une approche qui prend en compte tous les paramètres, les garanties, mais aussi des respects du droit. Le droit pénal militaire prévoit la peine capitale ou des infractions graves, et si nous nous trouvons dans ces conditions-là, eh bien, il faut appliquer la loi. Surtout sur les groupes armés qui ne doivent pas bénéficier, après avoir tué des gens, pour des raisons politiques ou diplomatiques, on les intègre, ces assassins, dans la chaîne de commandement. Et qu'est-ce que vous voulez avoir appelé?
Maître Jean-Claude Katende, on va prendre aussi pour vous cette dernière réaction qui nous vient de Kolwezi, dans la province du Lualaba.
C'est Patrick Mbouri, qui est depuis Kolwezi, de la province du Lualaba. Le rétablissement de la peine de mort en RDC peut aider le pays à réduire très sensiblement les actes de haute trahison qui s'observent depuis plusieurs décennies. Les rapports des experts de l'ONU en disent beaucoup sur les officiers militaires coopérant avec l'ennemi. Et cela doit s'étendre même au niveau de toutes les institutions de la République. Les officiels qui se seraient aussi reconnus coupables des actes de haute trahison devraient subir la rigueur de cette loi. Dans plusieurs pays à travers le monde, la peine de mort est appliquée pour dissuader les hommes aux envies illimitées. Ce n'est un secret pour personne. Plusieurs officiers militaires des FARDC coopèrent avec nos agresseurs. Je pense que contester cette loi, c'est aussi notre forme de trahison.
Maître Katendi.
Merci, madame, pour la parole que vous me donnez. Je considère personnellement que la question que nous sommes en train de débattre, c'est une question qui concerne pas seulement l'armée, mais qui concerne toute la nation. Mm-hmm. Et si nous voulons obtenir des résultats qui puissent permettre à ce que tout change, il est important que toutes ces questions soient prises en considération du côté militaire comme du côté civil. Vous savez aussi que les autorités politiques aujourd'hui ont nommé dans l'armée certains individus qui auraient pu en être écartés. Donc, en même temps, on parle de la trahison, mais en même temps, on promouvoit des individus, des militaires qui ne pouvaient pas être promus. Donc, il y a cette contradiction qui existe dans notre société. Mais comme je le disais, pour la ZADO et beaucoup d'organisations de droits de l'homme, la Constitution de la République démocratique du Congo abolit la peine de mort. L'article 61 est clair, on dit « en aucun cas ». J'aurais voulu que le professeur Njoli nous explique ce que veut dire « en aucun cas ». Parce qu'il a parlé du droit pénal militaire qui est spécifique, mais là, la Constitution, pour nous, nous considérons qu'elle est claire. Et je continue à dire aujourd'hui que dans l'état actuel de notre justice, il y aura des règlements des comptes entre les individus si on restaure la peine de mort, principalement pour la trahison. Il y a beaucoup d'émotions, il faut que ce débat ne soit pas seulement un débat organisé sur la radio Capi pour quelques citoyens que nous sommes, mais que ce soit un débat des sociétés, que ce débat soit transporté au niveau de l'Assemblée nationale, qui est la représentation du peuple congolais, pour qu'on en discute, que ça ne s'arrête pas seulement au niveau du gouvernement.
Alors, on va lire quelques réactions des auditeurs qui sont très très nombreux à nous suivre. Serge, Kusiri Kupata, voilà, en imposant une peine aussi sévère, cela enverrait un message fort aux criminels potentiels et contribuerait à renforcer l'autorité de l'État dans le maintien de l'ordre et de la sécurité publique, mais dans le contexte de notre pays, avec la réalité que nous connaissons bien, avec une justice qui n'est pas du tout rassurante, je crains fort que cette loi serve d'instrument de règlement de compte avec de condamnation des innocents. Je ne suis pas contre cette loi, mais c'est la qualité de notre justice qui m'inquiète. Professeur Kabuya, nous sommes dans la partie conclusion. Alors, le débat est lancé. Jean-Claude Katende souhaite que cela soit porté au niveau de l'Assemblée nationale pour que les élus du peuple puissent en discuter. Vous êtes pour la levée de ce moratoire tenant compte du contexte actuel.
Oui, tout à fait. Je pense que ça doit en principe être un débat qui doit s'ouvrir maintenant là et qui va permettre à ce que plusieurs points de vue soient, donc il y ait croisement de plusieurs points de vue afin que on écarte l'émotion de toute de cette problématique et qu'on arrive à des solutions qui soient plus profitables à la nation, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, la nation est en danger là. Mais ce que je voudrais particulièrement dire à ce stade, je souhaiterais, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, que les universités s'approprient de cette question et que les débats soient ouverts. Ces débats ne concernent pas uniquement que les juristes, ces débats
concerne le sociologue, les anthropologues, les criminologues, ça concerne tout le monde. Et le ministère de la recherche scientifique devra mettre des moyens pour permettre à ce que les débats commencent, maintenant les évaluations puissent se faire. Parce que, madame, je vais vous surprendre, il n'y a pratiquement pas de données sur le caractère dissuasif de la peine de mort ou quoi que ce soit. Parfois, on spécule avec des données qu'on ramasse ailleurs. Et les réalités, je venais de les dire, sont tout à fait différentes. Donc c'est maintenant là qu'il faudrait que progressivement, que parfois, que des études soient également canalisées sur cette question-là, pour qu'au bout de quelques années, que l'on puisse savoir exactement sur quel pied danser. Est-ce que ça vaudrait la peine de continuer ou ça vaudrait la peine d'arrêter? Est-ce que ça vaudrait la peine d'envisager des réformes? Je regrette, et ce problème soulève une autre question plus fondamentale qui concerne effectivement tous les systèmes répressifs de la République démocratique du Congo. Il faut qu'on y réfléchisse. Je me rappelle que vers les années 2010, il y a eu un avant-projet du code pénal qui a été rejeté à côté. Il y a cet aspect du problème, mais il y a également d'autres types de problèmes qui résultent entre autres du fait que nous avons tellement copié des textes de loi venant d'ailleurs et parfois on ne les applique pas et on se cantonne sur l'idée que les textes sont bêtes. Mais les textes ne sont pas faits pour devenir pour leur beauté, non. C'est pour que ça résolve les problèmes. Si ça ne résout pas, il faudra les modifier. Et là, j'appelle vraiment tous les chercheurs qu'ils puissent s'approprier de cette question. Nous avons des universités, le gouvernement dépense quand même de l'argent pour ça, mais il faudrait également en mettre encore suffisamment pour que des recherches soient initiées, afin qu'au bout de quelques années, qu'on puisse avoir des données quantifiables qui pourraient nous permettre de permettre au gouvernement de mieux orienter sa politique en matière répressive.
Merci, professeur Kabuya. Professeur Jacques Joly, votre conclusion. Jean-Claude Katené n'est pas d'accord avec vous concernant l'article sur l'abolition de la peine de mort. En aucun cas, cela signifie quoi pour vous?
Je comprends la position de Jean-Claude. Il est membre d'une association des droits de l'homme. Cependant, nous sommes en face de l'état actuel de la législation. On peut, à travers des analyses doctrinales, vous dire que lorsque l'article 16 dit que la vie est sacrée, eh bien, l'État n'a pas le droit d'exécuter des personnes, quelle que soit la gravité de cette infraction, mais nulle part dans la constitution congolaise, le député allé consulter la Cour constitutionnelle, il a dit que la peine de mort, la peine de mort est abolie. Donc, il faut que ce débat-là revienne au Parlement, et ce n'est pas un débat seulement des parlementaires, mais un débat sociétal. Et dans ce débat sociétal, il faut prendre en compte tous les paramètres. Les paramètres des crimes contre l'État, contre la société, qui fragilise l'État, qui est en Chine, dans le cadre de leur politique criminelle contre la corruption, on applique la peine de mort contre tous les agents de l'État qui se livrent à la corruption. Et aujourd'hui, la Chine est devenue ce qu'elle est parce que la lutte contre la corruption a pris ses schémas-là de manière rigoureuse. On ne peut pas être dans une société d'impunité où des groupes armés prennent des armes et ces gens-là deviennent des généraux après avoir créé des programmes de massacre.
Il faut conclure, professeur.
Un groupe armé, celui qui prend les armes contre son pays, il mérite de passer par les armes. Et la même chose des militaires qui entrent dans l'armée et qui se livrent à la trahison ou devant l'ennemi, eh bien, ou au détournement des derniers de munitions, destruction de matériel militaire, il faut la sanction. S'il n'y a pas de sanction, eh bien, c'est l'impunité et c'est laisser aller. Alors, il ne faut pas s'étonner que nous ayons une armée qu'on dit toujours faible et qu'un État, notre État soit toujours faible.
Merci, professeur Jacques.
La réponse pénale à la seconde ordre de l'État.
Merci, professeur. Maître Katende, conclusion. On me dit que la ligne, Maître Jean-Claude Katende est parti, sa ligne a coupé. Merci beaucoup à tous ces internautes qui nous ont laissé des messages. Faute de temps, on n'a pas pu les lire. Lucien Congolo, merci beaucoup. Florentius Florent, Charles Seya, Hussein Samoutiani, David Ouedi, Archim Pouya, André Pouya, Léonard Oloakana. Merci beaucoup, vous êtes très très nombreux. Merci. de rester fidèle au programme de radio Okapi. Merci à Pierre Diassinoua et Jean-Noël Mokondo qui étaient à la mise en onde. Guy Mathieu a réalisé ce magazine derrière la caméra. Jonathan Falani et Paul Badianyama. Présentation et coordination de ce magazine. Kéline Couté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.